Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Soir, vos deux heures d'infos, de débats et de décryptage. Le gouvernement aurait-il perdu l'art de bien communiquer par ces temps de crise? On en parlera avec le numéro 2 du groupe Havas, Stéphane Fuchs, auteur du livre Pandémie médiatique. Et il n'est pas tendre, vous l'entendrez avec l'exécutif, il sera notre invité à 18h20. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Faut-il fermer les écoles pour freiner les contaminations aux variants? On en parlera. Et puis 19h20, le grand débat du Club des Idées. Ce soir, enquête sur les cold cases. Comment travaillent les enquêteurs sur ces dossiers non résolus grâce à la révolution de l'ADN, qui vient d'ailleurs de relancer l'affaire du petit Grégory. On en parlera avec nos invités au travers d'affaires célèbres. Voilà pour le programme. Le journal d'abord avec vous, Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Quelqu'un qui est descendu des bureaux en courant, il m'a dit « il faut vite sortir ». Il y a quelqu'un qui a un fusil en haut qui se promène dans les bureaux. Ça a été la panique.
Deux femmes, une conseillère de Pôle emploi et la DRH d'une entreprise de carrosserie abattue ce matin dans la Drôme et en Ardèche.
Le tireur a été interpellé, il avait travaillé dans l'entreprise en question.
Et il pourrait également avoir abattu une autre DRH en Alsace avant-hier. Toutes les infos dans un instant avec Jean-Luc Boujon.
L'inquiétude du ministre de la Santé Olivier Véran autour de la propagation des variants en France. Nous voulons, dit-il, éviter une épidémie dans l'épidémie.
Et alors que la perspective d'un nouveau confinement se rapproche, le Premier ministre promet le dialogue pour désamorcer les critiques et un débat au Parlement, mais seulement après les possibles annonces d'un reconfinement.
Au sommaire également, 2020, année noire pour le tourisme. 11 fois plus de pertes qu'en 2009, la crise menace plus de 100 millions d'emplois.
Et puis c'est le deuxième tableau le plus cher après le Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Un Botticelli vendu aujourd'hui plus de 92 millions de dollars. La Bourse de Paris a terminé en net rebond, plus 0,93% à 5510 points.
Un coup d'œil au temps avec la prudence toujours de mise, les vigilances sont étendues. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien. Oui, nous avons actuellement 12 départements placés en vigilance orange. Le temps sera dans les prochaines heures de plus en plus agité avec de fortes pluies, des vents violents sur l'ensemble du pays. Les températures restent, elles, très douces avec plus de 20 degrés demain après-midi dans le sud. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et à la une donc ce soir, le parcours meurtrier de cet homme qui ce matin a tué deux femmes dans la Drôme et en Ardèche. La première est une conseillère de Pôle emploi, la seconde la DRH d'une entreprise dans laquelle il avait travaillé.
Jean-Luc Boujon, on le soupçonne également, c'est une information qui nous parvient ce soir, d'un troisième assassinat.
Oui, celui d'une autre DRH retrouvée tuée par balle dans sa voiture sur le parking de son entreprise mardi soir près de Colmar en Alsace. Ce qui trouble les enquêteurs, c'est le lieu de ce meurtre, hein, l'est de la France, d'où est originaire le tueur de Valence, mais aussi la présence remarquée d'une voiture japonaise de location rouge, le même modèle que celui utilisé ce matin à Valence. Enfin, il y a évidemment le fait qu'il s'agit aussi d'une DRH, elle aussi tuée par arme à feu, autant d'éléments qui font que les enquêteurs de Colmar et de Valence se sont parlé ces dernières heures. Alors concernant la Valence, eh bien il semble qu'à Pôle emploi, il n'ait pas spécifiquement visé la directrice d'équipe. Il a fait feu sur elle parce qu'elle était présente à l'accueil après avoir fait mine de s'intéresser aux offres d'emploi. Il n'était pas suivi dans cette agence puisqu'il habitait Nancy. Il y avait simplement été inscrit il y a 8 ans environ. En revanche, la situation semble différente dans l'entreprise. Faux environnement dans laquelle il s'est rendu dans un second temps, puisque d'abord, il y a travaillé 18 mois entre 2008 et 2010 et que l'équipe de direction, DRH y compris, était déjà là lors de son passage. Il connaissait donc cette femme, mère de famille de 51 ans, sur qui il a fait feu. Peut-être parce qu'il avait été licencié de cette entreprise, même si pour l'instant on n'en a pas la confirmation. Quels avaient été ses rapports avec cette DRH, on ne le sait pas encore. En tout cas, dans la société, c'était le choc tout à l'heure, raconte Philippe Fayat, l'un des représentants du personnel.
Il y a quelqu'un qui est descendu des bureaux en courant, il m'a dit il faut vite sortir. Il y a quelqu'un qui a un fusil en haut qui se promène dans les bureaux. On est sortis tous derrière, avant on est partis chacun d'un côté en courant, et voilà, ça a été la panique. S'il y a eu licenciement, c'est cette direction-là qui a licencié ce monsieur. C'était cette responsable des ressources humaines, et c'était notre directeur, voilà. Je pense que ces gens-là, ils doivent quand même avoir quelque chose sur le cœur envers la direction qui prend des décisions de licencier des gens.
Voilà, un délégué syndical qui ne se souvient pas précisément de cet homme de 45 ans, ingénieur, sans activité depuis plusieurs mois et visiblement aguerri au tir sportif.
Merci Jean-Luc Boujon à Valence pour Europe 1. C'est donc une information Europe 1 qu'on vous donne ce soir. Une seconde DRH aurait pu être tuée par le même homme.
L'ensemble des agences Pôle emploi resteront en tout cas fermées demain et une minute de silence sera observée par les agents. Il faudra encore patienter avant de savoir si nous allons de nouveau être confinés. La décision ne sera pas prise avant ce week-end, au plus tôt, mais en écoutant le ministre de la Santé égrener des chiffres cet après-midi, on voit mal comment on va pouvoir y échapper.
Oui, Olivier Véran qui a reconnu que le couvre-feu n'était pas la panacée, mais que s'il n'y avait pas de couvre-feu aujourd'hui, nous ne serions pas sur un plateau, mais en pleine vague épidémique.
Le ministre qui a également confirmé que les variants circulent déjà activement chez nous.
Le fait que ces variants se propagent dans notre pays nous laisse penser que le couvre-feu et l'ensemble des mesures de contrôle en vigueur dans notre pays sont certes utiles, mais probablement pas suffisantes. Ce que nous voulons éviter, c'est une épidémie dans l'épidémie, qui n'est pas encore véritablement visible en France, mais dont tout nous laisse à penser qu'elle sera une réalité très vite et très forte si nous ne faisons rien. Ces variants, je les considère un peu comme des nouveaux virus, appelant de nouvelles mesures pour nous protéger. Les Français font preuve depuis près d'un an d'un remarquable esprit de solidarité et de responsabilité. Nous devons tenir encore.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui semble donc préparer les esprits à un nouveau confinement, pendant que le Premier ministre, lui, multiplie les consultations.
Jean Castex, oui, a reçu aujourd'hui les représentants des élus, les présidents de groupes au Parlement et qui s'entretiendra demain avec les partenaires sociaux.
Jean-Rémy Baudot, a-t-on une idée de la tonalité des discussions ?
Eh bien, officiellement, ces discussions, elles sont organisées pour créer du dialogue et du consensus. L'exécutif jure que ça n'est pas de l'affichage, ce qu'il écoute. Mais parmi les participants, personne n'a de doute. Une annonce de confinement, ça ne serait qu'une question de jours. Dans ce contexte, les présidents de groupe ont tenté cet après-midi de faire valoir leurs propositions devant le Premier ministre. Des élus qui, semble-t-il, ont été en partie entendus, puisque le Premier ministre a accepté un débat puis un vote au Parlement avant une possible entrée en vigueur d'un confinement. Un vote encadré par l'article 50-1 de la Constitution, vote donc purement consultatif, qui interviendrait selon toute vraisemblance en début de semaine. Petit à petit, on comprend donc comment la séquence politique des prochains jours va s'organiser, avec une prise de décision ce week-end par l'Élysée, une annonce, un débat, puis une mise en application des nouvelles restrictions la semaine prochaine. Ce qu'on ignore encore, c'est jusqu'où ces restrictions iront. Quid des écoles ? C'est évidemment le point et la question que tout le monde se pose. Les ministères continuent encore d'abreuver l'Élysée de notes et de propositions. Les dernières enquêtes sur les chiffres du Covid seront connues ce week-end. Une ministre me confiait tout à l'heure, tous nos choix auront des inconvénients. C'est vraiment un exercice d'équilibriste.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
On s'attendait à une année noire pour le tourisme en 2020. Eh bien, on a aujourd'hui les chiffres et c'est pire encore que ce que l'on redoutait.
Oui, bonsoir Clément Le Saffre.
Bonsoir.
La chute du tourisme mondial est historique.
Oui, le chiffre donne le tournis à 1300 milliards de dollars de pertes en un an pour le secteur selon les calculs de l'Organisation mondiale du tourisme. C'est l'équivalent, rendez-vous compte, du PIB d'un pays comme l'Espagne. Ces pertes sont 11 fois supérieures à celles enregistrées lors de la crise économique de 2009 qui était jusqu'ici la pire année jamais enregistrée. La raison, elle est simple, à cause de la pandémie, le nombre d'arrivées de touristes a chuté de 74% cette année par rapport à 2019. Alors évidemment, l'Europe est très impactée avec 500 millions de touristes qui manquent à l'appel. La France a perdu elle seule 61 milliards d'euros de recettes touristiques en 2020. Et il faut ajouter à ça les pertes colossales pour nos entreprises, hein, 3,6 milliards d'euros pour Air France, 5 milliards pour la SNCF. Et l'avenir ne s'annonce pas plus radieux. Hein. L'Organisation mondiale du tourisme souligne que la perspective d'un rebond en 2021 s'éloigne et qu'il faudra 2 à 4 ans pour retrouver le niveau de 2019, avec une conséquence dramatique. 100 à 120 millions d'emplois sont menacés dans le monde.
Précision signée Clément Le Saffre du service éco d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal avec cette situation à laquelle on a, c'est vrai, tous été confrontés un jour. Un document officiel, incompréhensible, pour cause de jargon administratif hermétique.
Oui, vous savez, c'est ce document que l'on découvre dans sa boîte aux lettres ou que l'on vous demande de remplir au guichet avec des mots comme co-contractant, défaillant ou de manière irréfragable, avancement d'oirie. Alors, c'est presque humiliant hein, pour celui qui ne comprend pas de quoi on parle. Eh bien, on a une bonne nouvelle ce soir.
Oui, une plateforme a été lancée aujourd'hui et elle devrait nous aider, vous aider à y voir plus clair.
Ça s'appelle Service Public Plus. C'est une plateforme qui est adossée au site servicepublic.fr. Et l'idée eh bien, c'est de signaler les formulations complexes, obscures, pour qu'elles soient corrigées rapidement. Bonsoir Hélène Terzian.
Bonsoir.
Visiblement, ça pourrait être bien, bien utile.
Oui, tenez, Isabelle, Julien, par exemple, que comprenez-vous si l'URSSAF vous envoyait cette lettre ?
J'ai remis vos bordereaux comme l'initial, mais vous devez refaire le bloc de régularisation en renseignant le montant de l'assiette qui correspond à la cotisation qui reste pour le moment en débit.
Vous... Elle serait bien embêtée.
Voilà, vous comprenez pas grand-chose, moi non plus, Christophe non plus.
C'est une grande phrase avec peu de ponctuation, donc c'est compliqué, il faut couper l'éléphant en morceaux pour arriver à le digérer. Ça serait utile effectivement d'avoir une plateforme qui puisse permettre d'avoir un éclairage supplémentaire.
En vous aidant à décrypter ce type de document administratif bien trop compliqué, Sarah pourrait par exemple soumettre une feuille de soins de la Sécu pour y voir plus clair.
En fait, il y a juste une liste de montants. Je ne sais pas dans les trois cases lequel est remboursé, lequel est la base de remboursement, lequel doit être payé. Enfin, voilà, on ne prend rien, quoi.
Il y a aussi des conseils pour éviter des erreurs dans vos démarches pour la retraite. En cas de déménagement, on en a tous besoin. Un éclairage aussi sur les nombreux acronymes. Un coup de pouce plus que bienvenu pour Nella.
Bon, dans tous les documents des impôts, vous voyez partout RAS.
RAS, c'est rien à signaler plutôt, oui.
Au bout d'un moment, vous finissez par comprendre en recoupant, mais bon, c'était pas naturel retenu à la source RAS.
Dans le contexte de la pandémie, les questions liées aux démarches en matière de santé devraient particulièrement être examinées, bien sûr.
Et bien, on espère que cette plateforme va nous changer la vie. Ça s'appelle donc Service Public Plus. Merci Hélène Terzian.
RAS Hélène Terzian, merci à vous. Les arrivées se succèdent dans le Vendée Globe.
Ah oui, il y en a eu trois ces dernières heures. Boris Herrmann arrivé cinquième après une fin de course assez terrible pour le skipper allemand qui a percuté un bateau de pêche hier soir alors qu'il pouvait encore espérer décrocher la victoire. Belle sixième place pour Damien Seguin. Vous savez, c'est ce skipper né sans main gauche, premier marin handisport a bouclé ce Vendée Globe, suivi de près par l'Italien Pedotti. Et puis on attend là dans la soirée Jean Le Cam.
Bah oui, le doyen Jean Le Cam qui nous a fait vibrer aussi pendant ce tour du monde en solitaire. Un tableau attribué au maître de la Renaissance italienne Botticelli, mis aux enchères aujourd'hui par la maison Sotheby's.
Sotheby's, oui, c'est Sotheby's. Le portrait du jeune homme tenant un médaillon.
Décidément, avec l'anglais, j'ai du mal.
Estimé à 80 millions de dollars. Diane Shinoda, il a finalement été vendu 92 millions de dollars. C'est un peu plus de 76 millions d'euros. Et en tout cas, c'est un événement sur le marché de l'art.
Ladies and gentlemen, we now move on to the star of the sale, Sandro Botticelli's masterpiece.
Oui, c'était le clou, la star de cette vente chez Sotheby's, ce chef-d'œuvre de Botticelli, comme le souligne le commissaire-priseur au début des enchères. Portrait d'un jeune homme aux cheveux longs qui tient dans ses mains un petit tableau comme une icône, joyau de la Renaissance, datant de 1480, parfaitement conservé, estimé à 80 millions de dollars. Les enchères ont démarré à 70 millions et le tableau a finalement été adjugé 80 millions.
For $80 million. Thank you, ladies and gentlemen. We can now safely say that the Botticelli is the most valuable old master painting ever sold in a Sotheby's auction.
Avec les frais, ce Botticelli est parti à plus de 92 millions de dollars, soit plus de 76 millions d'euros. Vous l'avez dit, c'est considérable, mais on est loin du record détenu par le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, vendu il y a 3 ans à 450 millions de dollars. Mais ce Botticelli devient quand même le deuxième tableau ancien le plus cher au monde après le Salvator Mundi, record jusque-là détenu par le massacre des innocents de Rubens. On ne sait pas encore qui l'a acheté, mais je peux vous dire que le milliardaire américain qui vient de vendre son Botticelli a fait une affaire, car il y a presque 40 ans, il ne l'avait acheté, si j'ose dire, qu'1 300 000 dollars.
Effectivement, vendu donc 92 millions de dollars. Merci Ben Chenouda.
Et puis James Bond va-t-il devoir retourner des scènes pour cause de téléphone obsolète ?
Mourir peut attendre, vous savez, c'est le nouveau James Bond qui doit sortir en France en octobre avec Daniel Craig. Sauf que le film a tellement été reporté pour cause de Covid que les produits Nokia placés dans ce film sont déjà dépassés. Or 007, bien sûr, doit avoir le must. Et la marque partenaire, elle exige qu'il ait son tout dernier modèle. Il paraît que ce serait le cas aussi pour Adidas ou bien pour la marque de montre Omega.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30 et le journal 19h. Prudence en Corse, Anissa, des vigilances sont en cours.
Oui, les deux départements corses sont placés en vigilance orange pour vent fort. Ça va souffler très fort demain, des vents tempétueux à plus de 140-150 km/h sur l'île de Beauté. Soyez prudents, le temps est très agité sur une grande partie du pays demain. Donc c'est en Corse que ça sera le plus violent, mais attention, dans l'Est, nous avons aussi plusieurs départements placés en vigilance orange, déjà dans les Alpes, même scénario qu'en Corse. 4 départements placés en vigilance orange avalanche, des vigilances pluie-inondation parce que les pluies sont importantes, et puis le vent qui souffle à plus de 110 km/h sur les sommets, un risque important donc qui va accentuer les avalanches. Nous avons également le Jura, la Haute-Saône, le Doubs concernés par ces vigilances pluie-inondation. Partout ailleurs, demain, nous avons une nouvelle perturbation qui va traverser le pays avec des averses pour toutes les régions, sauf le littoral méditerranéen. Du Languedoc à la Côte d'Azur, là, le temps reste sec, mais le vent va souffler fort et la tramontane se lève bien demain.
Les températures.
Voilà, les températures, elles restent douces avec 6 à 12 degrés demain matin et puis 10 à 21 degrés demain après-midi. C'est très doux pour la saison, 10 pour Annecy.
Nancy, 12 à Paris et Strasbourg, 15 à Lyon, 17 à Marseille et 21 la maximale pour Bastia sous la tempête.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h18, le vice-président du groupe Havas, grand spécialiste reconnu de la communication. Bonsoir Stéphane Fuchs.
Bonsoir.
Merci infiniment d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors vous publiez un ouvrage absolument passionnant que j'ai dans les mains qui s'appelle Pandémie médiatique, c'est aux éditions Plon, dans lequel vous revenez sur la gestion de crise du gouvernement face au Covid. Et votre propos, en somme, est de dire que nos gouvernants ont un peu improvisé leur com' dans cet événement inédit et que ça a été fait en dépit du bon sens. Vous parlez même d'un fiasco français. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné d'abord, en quelques mots ?
Alors, d'abord, ce qui est fascinant, c'est la différence entre la politique sanitaire qui a été suivie et qui est, si on regarde les résultats, dans la moyenne, l'hôpital n'a pas été débordé, on n'a pas plus de morts par 100 000 habitants que plein d'autres, et même moins que beaucoup d'autres.
Oui, regardez les Anglais. Vous dites que la France a plutôt bien géré, finalement, la crise.
La France a plutôt bien géré, l'hôpital a tenu, la mobilisation des administrations... des personnels hospitaliers et soignants a été formidable. Et pourtant, la confiance des Français dans la politique qui était suivie par le gouvernement pour nous sortir de cette affaire, elle a fondu pendant la crise. Et au fond, on a un élément qui, pour le communicant, est évidemment fascinant, c'est que le jugement n'est pas corrélé à la réalité, mais à la perception.
Oui.
Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était mon hypothèse de départ, le logiciel de communication avec lequel ceux qui nous gouvernent, c'est pas spécifique à ce gouvernement, hein, avec lequel ceux qui nous gouvernent gouvernent, est un logiciel de communication obsolète.
Oui.
Et vous
parlez, Stéphane Fuchs, de trois erreurs fondamentales. Mmh. L'infantilisation des Français, le règne de la technocratie et une pratique du pouvoir incohérente, avec des exemples tout à fait concrets. Par exemple, le fait de donner chaque soir le nombre de morts du Covid, et notamment dans les EHPAD, pendant la première phase au printemps dernier. Et en même temps... J'ai envie de vous dire, Stéphane Fuchs, comment faire autrement ? Si on n'avait pas cette transparence, on accuserait les politiques de cacher la vérité.
Mais le problème n'est pas, en l'espèce, la transparence. Le problème, c'est qu'on a commencé par le mensonge. On a commencé par le mensonge parce qu'on a commencé avec le masque. Et le masque fait tout partir de travers. Parce qu'on commence par nous dire le masque est inutile. Parce qu'on veut à la fois cacher la pénurie. Mmh. Et on a peur de dire la vérité aux Français parce qu'on a peur que la pénurie provoque de la panique. Mais aussi parce que, à l'instar de certains médecins, de bonne foi, une partie de ceux qui nous gouvernent considèrent que le masque est dangereux.
Oui.
Parce que nous serions tellement bêtes que nous ne pourrions pas apprendre à porter ce machin de tissu qu'il faut effectivement mettre derrière les oreilles, sur lequel il faut étendre, etc. Et d'ailleurs, ni vous ni moi, on ne savait porter le masque avant cette crise et on a appris parce qu'il fallait bien que tout le monde apprenne.
Et ça nous amène d'ailleurs au deuxième point, l'infantilisation qui revient beaucoup dans votre livre. Les petits mensonges sur les masques, vous l'avez évoqué, les interdictions absurdes, le fait qu'on a pris finalement les Français pour des enfants et qu'on les a traités ainsi. À la différence, par exemple, de l'Allemagne, qui a plutôt de son côté fait appel à la responsabilisation. Et en même temps, Stéphane Fuchs, ça n'a pas mieux fonctionné chez eux que chez nous.
Alors, si, ça a quand même mieux fonctionné.
Hein, pas aujourd'hui.
Non, quand même. Ils ne sont qu'à 50 000 morts. Et donc, ils sont quand même en deçà de nous et en ayant vécu des confinements différents. Puis surtout, en termes de confiance dans les gouvernants, ça n'a pas les mêmes conséquences. Et donc, cette crise n'a pas nourri, comme chez nous, le risque du populisme.
Et la défiance, oui.
Et la défiance. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous ? C'est qu'il y a par ailleurs... une défiance de l'opinion vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, mais il y a aussi une défiance de ceux qui nous gouvernent vis-à-vis de l'opinion.
Suivez en ce moment ce qui se passe au niveau de la communication du gouvernement, j'imagine, parce que
forcément,
vous avez arrêté votre livre il y a maintenant quelques semaines. Comment vous la jugez, cette communication du moment ?
Alors, je vois qu'il y a des efforts qui sont faits, notamment sur la question de la transparence.
Bah, c'est-à-dire qu'ils ont lu votre bouquin, peut-être, depuis.
espérons. Si je peux avoir contribué, tant mieux, je ne suis pas sûr. Je serais plus modeste que ça. Mais si... mais en tout cas, s'ils l'ont lu, ils n'en ont pas tout retenu.
Par exemple.
Parce que le sujet n'est pas simplement d'être transparent et de dire la vérité, c'est déjà un progrès. Le sujet, c'est aussi de ne pas se tromper ni dans la compréhension de l'opinion, ni dans ce qu'il faut raconter. Regardez ce qui se passe sur les vaccins, au fond. Hein. On se fait... une rebelote de la crise sur les vaccins parce qu'on est tellement obsédé par une partie de l'opinion, parce qu'on ne sait pas lire les études d'opinion et qu'on pense que...
Vous parlez des anti-vax.
50% de Français qui veulent être vaccinés, c'est équivalent à 50% qui ne veulent pas l'être et donc on construit la stratégie en fonction des 50% qui ne veulent pas l'être. En marketing, en communication, chez nos stagiaires, on leur apprend en première année que le volume et l'intensité, c'est deux concepts différents. Là, vous avez une fausse perception.
Très intéressant ce que vous dites, Stéphane Fuchs. Par conséquent, qu'aurait dû faire le gouvernement en termes de communication au moment du lancement de cette campagne de vaccination pour jouer plutôt sur le volume de Français prêts à se faire vacciner?
Alors, c'est assez simple, hein, parce que d'abord, quand vous dites à ceux qui ne veulent pas être vaccinés qu'ils n'auront pas à l'être, eux, en intensité, ils sont plus concernés par le sujet, ça baisse. Mais quand vous dites aux 50% de Français qui veulent être vaccinés, vous ne pourrez pas l'être, vous allez devoir attendre. Pas juste parce que c'est compliqué en logistique ou parce que les labos ne nous livrent pas les vaccins qu'on a commandés, mais parce que nous avons décidé d'aller lentement. Mmh. Là, vous mettez les gens en colère. Alors, heureusement,
oui, sous la pression... C'est Olivier Véran qui dit « je gère mes vaccins comme un bon père de famille ».
Oui, alors que, évidemment, le sujet, c'était de dire au fond, ce que nous souhaitons, c'est vacciner le maximum de Français dans le minimum de temps.
Oui.
Ça sera compliqué parce qu'il y a un problème d'approvisionnement, parce qu'il y a une difficulté de logistique, et donc il faut qu'il y ait un ordre, et on commence par les personnes les plus vulnérables. Mais si on expliquait ça, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus proche de la vérité, on n'avait pas le problème que l'on a aujourd'hui.
Vous avez conseillé un certain nombre de politiques, vous continuez à le faire, j'imagine. Comment vous expliquez que dans une crise comme celle-ci, où il y a une crise de confiance, une défiance, et puis un problème de communication récurrent, on est encore, même aujourd'hui, un ministre qui dise vert et un autre ministre qui dise rouge? Comment se fait-il qu'il n'arrive pas à se coordonner?
Alors, c'est d'abord parce que la communication n'étant pas leur sujet principal, parce qu'ils ont toujours considéré que c'était au fond une discipline secondaire, pour ne pas dire vulgaire, la communication dans l'organisation du gouvernement est quelque chose de très faible.
Ce qui est un sacré paradoxe, parce que notre président, on l'a souvent comparé à Kennedy dans sa modernité, dans sa façon
de... Parce que lui, il est plutôt moderne et doué.
Et
d'ailleurs, il a un excellentissime conseiller en communication à l'Élysée. Donc, ce n'est pas la qualité des hommes. Ce qui dysfonctionne, c'est le système.
Oui.
C'est le système parce que quand les Allemands dépensent 50 millions pour faire la promotion de leur application anti-Covid, les Français ne le font pas. Parce qu'on a peur de faire de la publicité, parce qu'on se dit « oh là là, on va dire que… » etc. Parce que là où il devrait y avoir une vingtaine de personnes en charge de la coordination de la communication gouvernementale pour être certain qu'elle va être alignée, la seule manière qu'ils ont de l'aligner, c'est d'interdire à tous les ministres, à l'exception de quelques-uns, de prendre la parole. Ce qui fait qu'évidemment, ils diminuent le volume de présence du politique dans les médias et qu'ils laissent s'exprimer les médecins.
Oui.
Or, les médecins, enfin, quand même… La controverse, elle est dans la nature même de la science. Les scientifiques passent leur temps à se disputer.
Oui, ça n'est pas une science exacte,
par définition.
Mais non,
c'est normal, et d'ailleurs, ils évoluent. Et en plus, avec une pandémie comme ça, ça évolue aussi. Sauf que là, du coup, les Français, quand on leur a dit « nous ferons ce que nous disent les scientifiques
oui. »,
bon, alors au moins, j'ai l'impression que j'ai une boussole. Sauf que voilà, la boussole, elle sait plus ce qu'elle indique.
Ben oui,
puisque
les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux.
Ils ne sont pas d'accord entre eux, ils passent leur temps.
Et par conséquent, on donne trop de pouvoir aux scientifiques. C'est un peu ce que vous dites dans votre livre.
Et d'ailleurs, on voit bien la volonté du politique, à raison d'un certain point de vue, de la récupérer. C'est la scène qu'on vient de voir cette semaine. Ce n'est pas à vous de décider, c'est à moi.
Oui.
Parce qu'évidemment, la question d'un troisième confinement, elle se pose comme toute mesure en fonction de l'acceptabilité par l'opinion. Parce que sans acceptabilité, les décisions ne sont pas suivies des faits.
C'est d'abord la confiance qui
c'est
suscite
la confiance,
aussi l'acceptabilité.
C'est la compréhension. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des chiffres et pas juste des intuitions et des sentiments.
Vous avez de temps en temps le président de la République ou ses équipes au téléphone, justement, pour ces questions de communication?
D'une manière générale, je ne raconte jamais ce genre de choses, mais en l'espèce, très peu. Et donc, je peux dire facilement que non. Mais je comprends, par contre...
Si vous l'aviez au téléphone, là, tout de suite, vous lui diriez quoi en termes de stratégie de communication ou de petits conseils de communication?
Non, mais je ne vais pas lui faire du conseil à la radio, ça n'a pas de sens. Et donc, je n'entrerai pas là-dedans, mais... Le sujet, c'est qu'au fond, on peut valider le fait que le président de la République ait décidé que pour prendre une décision de cette nature, il fallait prendre le temps de l'étudier, de la préparer et que les Français comprennent le pourquoi on y était éventuellement contraint. Parce que dans l'état de fatigue de l'opinion, dans l'état d'épuisement, ce que nous disent toutes les études de l'opinion, prendre une décision de cette nature, c'est compliqué. Mais le problème, c'est qu'à force de donner le sentiment du zigzag, le lundi, je confine. Le mardi, je confine plus. Le mercredi, je vais peut-être confiner. Le jeudi, je confinerai peut-être samedi. Et le samedi...
Les Français sont perdus.
Et surtout, ils ne voient plus au-delà que d'un horizon court. Et donc, ils ont l'impression qu'après le troisième confinement, ça sera le quatrième et le cinquième. Alors même qu'en réalité, parce que le vaccin est là, parce que la science a réussi d'une manière extraordinaire à répondre dans un délai qui n'avait jamais été connu à cette, à cette pandémie, il y a aussi des raisons d'espérer.
Alors, il y a quand même des petits conseils que vous donnez dans votre livre, j'en cite un pour terminer. Le gouvernement aurait dû, devrait ouvrir ses portes pour montrer la mobilisation de l'État, dites-vous. Les usines de fabrication de masques, la mobilisation des agents de l'État au service des Français, les ponts aériens pour acheminer les malades, comme ça a été le cas, on l'a un peu vu, mais pas suffisamment. Ça veut dire qu'il faut être totalement transparent, il faut montrer que la machine d'État travaille au service des citoyens.
Ça veut dire qu'en communication, il y a une règle d'or à respecter dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est plus un monde de la parole, mais un monde de l'action. Il faut préférer aux paroles qui font du bruit, les actions qui font du bien.
Oui.
Et donc montrer l'État en action et non pas la cacophonie en paroles, ça serait évidemment une bien meilleure stratégie.
Bien, merci Stéphane Fuchs. Je rappelle le titre de votre ouvrage, absolument passionnant et qui raconte avec moult détails tout ce que vous venez d'évoquer en quelques minutes. Ça s'appelle « Pandémie médiatique, com de crise, crise de com ». Tout est dit dans le sous-titre, c'est aux éditions Plon. Merci Stéphane Fuchs.
Merci.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bouchy.
18h30, passé de 1 minute, le rappel des titres avec vous Isabelle Millet.
Et l'homme qui a tué deux femmes ce matin dans la Drôme et en Ardèche pourrait être l'auteur d'un troisième assassinat avant-hier en Alsace. Ce matin, il a battu sans froid une conseillère Pôle emploi dans son agence à Valence, dans la Drôme, et la DRH d'une entreprise. L'homme âgé de 40 ans a été arrêté, il était demandeur d'emploi. Il avait travaillé dans cette entreprise il y a plusieurs années. Les enquêteurs étudient donc la piste d'une vengeance et s'interrogent sur ce troisième meurtre, également celui d'une DRH retrouvée tuée par balle dans son véhicule. Le gouvernement poursuit sa réflexion avant de faire des annonces face à l'évolution préoccupante de la situation sanitaire. Cet après-midi, Olivier Véran a préparé les esprits à un éventuel reconfinement. Il confirme que les variants, en particulier le britannique, circule déjà activement chez nous, ce qui veut dire que le couvre-feu n'est pas suffisant. Nous voulons, dit-il, éviter une épidémie dans l'épidémie, ce qui sera le cas si nous ne faisons rien. Une confirmation importante aujourd'hui, comme celui de Moderna, le vaccin de Pfizer-BioNTech est également efficace contre les variants anglais et sud-africains, justement. Et puis les arrivées qui se succèdent dans le Vendée Globe. Damien Seguin, premier marin handisport, a bouclé cette course, se classe 6e devant l'Italien Pedotté. On attend maintenant l'autre héros de ce Vendée Globe, Jean Le Cam, course remportée, on le rappelle, par Yannick Destaven.
Merci Isabelle. Un petit coup d'œil au temps avant de retrouver les grandes voix du jeudi avec Anissa qui nous a retrouvés et qui nous annonce 12 départements placés en vigilance orange.
Et ça se passe dans l'est du pays. Vigilance orange, pluie, inondation pour la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, le Jura et le Doubs. Vigilance orange aussi pour la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, la Haute-Saône. Vigilance avalanche pour les Alpes de Haute-Provence, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie. Et puis vigilance orange au vent fort pour les deux départements Corse où les rafales pourront dépasser les 140 km/h demain. Le temps reste très perturbé sur l'ensemble du pays, sauf au bord de la Méditerranée. Les températures, elles sont toujours aussi douces. On va dépasser les 20 degrés demain après-midi.
Ah oui, très très
douce.
Dans le
sud, ouais, très douce.
Bien, vous revenez nous voir tout à l'heure, Anissa, à 19h pour un nouveau point sur le temps.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bouchy.
Le débat des grandes voix du jeudi, donc ce soir, avec Michel Cotta. Bonsoir.
Bonjour.
Michel. Claire Chartier, bonsoir Claire, rédactrice en chef débat et idées à l'Express. Et David Revaud-Dallon, bonsoir David.
Bonsoir.
Rédacteur en chef politique au Journal du Dimanche. Alors la grande question ce soir est de savoir si le gouvernement va fermer ou non les écoles ou prolonger les vacances. Ce qui revient à peu près au même d'ailleurs. On a une fois encore assisté ce matin, c'est vrai, une communication à géométrie variable de la part du gouvernement. Pour Gabriel Attal, c'est une option.
Tous les scénarios sont sur la table, rien n'est exclu. On arrive dans une période de vacances de février, ou sur un mois selon les trois zones, il y a les vacances de février. Et donc, il est évidemment possible de réfléchir à allonger les vacances d'un côté ou de l'autre. Mais encore une fois, notre objectif, ça reste évidemment que les enfants puissent continuer à apprendre.
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Au même moment, sur France 2, Jean-Michel Blanquer disait ceci.
Encore faut-il démontrer que les vacances sont moins contaminantes comme période que la période scolaire. Je constate qu'au retour des vacances de la Toussaint, comme au retour des vacances de Noël, vous avez une courbe épidémique qui monte dans les 10 jours qui suivent et qui montre que c'est plutôt pendant la période extrascolaire que pendant la période scolaire que l'on s'est contaminé.
Voilà, on voudrait le faire exprès, on n'y arriverait pas, David Revaud-Dallon. Comment expliquer cette nouvelle cacophonie et qui croire surtout ?
Oui, c'est plus une cacophonie qu'une géométrie variable, effectivement. Qui croire ? Alors, dans cette affaire, chaque ministre représente les intérêts des catégories dont il a la charge. Le ministre de l'économie, les entreprises, etc. Le ministre de l'éducation, c'est bien sûr les personnels et les élèves. Et Jean-Michel Blanquer, depuis le début...
Enfin, Gabriel Attal, il représente tout le monde, normalement.
Il représente tout le monde. Jean-Michel Blanquer, depuis le début, il plaide fortement pour le maintien du système scolaire ouvert, enfin, école, collège, lycée, et il a obtenu gain de cause, ce qui fait effectivement... du cas français, une spécificité. Il avait plutôt, depuis quelques semaines, l'accord du Premier ministre et du Président, mais là, on sent que le jeu se tend, le jeu se durcit, et qu'effectivement, parmi les quelques points durs qui restent à régler, à arbitrer en attendant.
Et quel point ? Et quel
point ? L'annonce. C'est parce que effectivement, est énorme, hein. C'est au premier rang des points durs et l'école est celui qui est le point dur qui focalise le plus. Alors vous avez raison, Gabriel Attal, Blanquer représente lui-même, enfin son ministère. Attal représente tout le monde, et donc on peut considérer que ce petit misfit, ce petit hiatus montre que le président, il a peut-être un petit peu changé d'avis par rapport à ce qu'il pensait
parce
ces dernières semaines.
Parce que c'est vrai et c'est important de le rappeler, Michel Cotta, depuis le début, la doctrine de l'exécutif, depuis le printemps, depuis toujours, c'est été de maintenir coûte que coûte les écoles ouvertes. Et le chef de l'État l'a d'ailleurs redit lui-même à plusieurs reprises.
Oui, il est vrai que ça pose des problèmes de garde d'enfants d'abord, puis surtout de déséquilibre des enfants. C'est très bien quand ils ne sont pas en classe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez toutes les images de gosses qui rentrent à l'école là, et qui sont tout contents d'y rentrer. Ouais. C'est quand même un milieu naturel pour eux. Les priver de ça, c'est vraiment les éloigner pour longtemps, leur abolir les contacts sociaux. Et puis c'est aussi pénaliser quand même quelque part les parents qui travaillent.
Et puis pas que. Alors, moi j'ai regardé juste avant de rentrer en studio les chiffres des spécialistes sur les hausses alarmantes des admissions d'enfants très jeunes pour dépression et gestes suicidaires. Des gamins qui sont admis à l'hôpital à 10 ans. Et puis la flambée aussi des maltraitances. Ça aussi c'est un sujet important. J'ai vu qu'il y avait 56% de hausse par exemple en mai dernier d'appel au 119 qui est le service de l'enfance en danger. Donc ça aussi ça doit peser dans la décision.
Et puis la contamination, le risque de contamination des enfants sur les adultes. Parce qu'on sait aussi que c'est comme ça que ça se passe, et souvent les enfants qui n'ont rien contaminent leurs parents. Ça vient d'arriver, autour de nous ça arrive partout. Donc c'est aussi une considération qu'on ne peut pas éloigner.
À ceci près, Michel, il y a une grande étude américaine qui est sortie aujourd'hui, c'est un peu un hasard, parce que nous on réfléchit à ça, mais voilà, cette grande étude américaine, on apprend justement qu'il n'y a pas de propagation rapide dans les écoles quand le port du masque est respecté, quand les distances sont respectées. C'est une analyse qui a été publiée dans le Journal of the American Medical Association. Claire Chartier.
Oui, il y a un paramètre aussi qu'il faut ajouter, c'est... Le creusement des inégalités sociales, qui est effectivement très fort. On l'a observé lors du premier confinement, et vraiment le décrochage que l'on observe aussi d'ailleurs au niveau de l'université, pour ceux qui vont à la faculté, qui ne sont pas en classe préparatoire, mais qui sont comme ça, dans ce lâché, en fait, dans un no man's land où il n'y a pas de contact. Oui. Donc ça grève les chances de ceux qui sont le moins favorisés. Donc il y a ce paramètre social. Je pense qu'il y a aussi un vrai consensus dans l'opinion française pour laisser les écoles ouvertes, parce qu'effectivement, l'école, ça représente quelque chose.
Et puis surtout, les parents ont vécu le premier confinement au printemps en s'occupant de leurs enfants le matin ou l'après-midi.
Bien placé pour le savoir, c'était assez infernal.
Et en travaillant aussi en télétravail jusqu'à parfois 2h du matin pour faire le boulot.
L'attachement au fait que les enfants aient quand même les connaissances requises suffisantes pour avancer dans le cursus, il y a aussi ça quand même qui joue en France.
Il y a beaucoup de paramètres. Alors, il paraît qu'il y a une autre option qui serait sur la table, qui serait de ne fermer que les collèges et les lycées, et qui serait plus acceptable et raisonnable, parce que ça éviterait les problèmes de garde d'enfants, David Revaud-Allonne.
Oui, effectivement. Alors là, on est dans c'est une question très importante, mais on est dans les réglages, le tour de vis, le micro-arbitrage. Je crois que la réflexion est à peu près sur tous les points durs qu'on évoquait tout à l'heure, aussi bien les commerces que les frontières, etc. On cherche absolument 5, 10, 15 scénarios à chaque fois. Donc celui-là, il est effectivement à l'étude, mais il pose un problème. Parce que Jean-Michel Blanquer, depuis le départ, quand il dit école, il entend école, collège, lycée, et ce, jusqu'au bac. Et d'ailleurs, on se commence à s'apercevoir ces derniers jours et ces dernières semaines qu'il aurait même fallu aller encore plus loin, puisque on voit qu'il y a une vraie, enfin que les étudiants sont en perdition, les étudiants à l'université, du moins ceux qui n'ont pas la chance d'être en classe préparatoire,
qui n'ont pas réussi le concours, tu veux dire.
Voilà. Et donc,
pas une chance.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette décision un peu tardive de renvoyer les élèves de première année à l'école. Mais je vois pas du tout le gouvernement prendre cette décision, puisqu'on on lui reproche déjà d'avoir scindé la jeunesse en deux. En gros, après le bac, à la majorité, vous laissez les gens dans la nature de 18 à 25 ans, alors que précisément, c'est un moment extrêmement important, et tous les autres ont été sécurisés. Donc, ça m'étonnerait que cet arbitrage atterrisse sur cette proposition.
Et puis, il y a l'idée aussi de prolonger les vacances, qu'on entend de plus en plus. Oui. C'est d'ailleurs ce que disait Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Mais en réalité, prolonger les vacances, ça revient à fermer les écoles 2 semaines supplémentaires, parce que les vacances, ça ne dure que 2 semaines. Donc, si vous fermez les écoles pendant 4 semaines et que vous prolongez les vacances.
En réalité, il n'y a pas de sujet. Parce que
de
si
fait, c'est la même
chose. Si vous confinez là pour un mois, en réalité, les élèves n'auront que 2 semaines de vacances.
Et les parents auront pendant au moins 15 jours les enfants.
Mais ça,
dans
ils ont l'habitude pendant les vacances. En réalité, ils ont l'habitude de s'en occuper. Donc c'est autre chose. Donc il y a 15 jours supplémentaires. On est d'accord. De toute façon, au stade où on en est, franchement, il n'y a que des mauvaises solutions. Moi, je voudrais que vous.
Mais celle-là est quand même très, très mauvaise.
Je ne suis pas sûre. Moi, je n'en suis pas sûre. Parce que
quand vous avez des enfants à charge, je peux vous dire que ce n'est pas idéal.
De toute façon, on est tous. On est tous pareils, il y a tous des enfants, des petits-enfants et tout ce qu'on veut. Mais il n'y a que des mauvaises solutions. Si vous avez une grosse contamination parmi les jeunes adultes...
Michel Cotta, il y a un protocole aujourd'hui qui est établi dans les écoles. Au-delà de 3 contaminations, on ferme une classe. Au-delà d'un peu plus, on ferme l'école.
Oui, mais c'est pour ça qu'il y en a tellement
fermé. Donc ça fonctionne.
Quand je veux dire qu'il n'y a pas de bonne solution, je veux dire qu'il y a effectivement le choix entre... On voit ce variant qui n'était vraiment pas attendu. Oui. On parlerait différemment s'il n'y a pas le variant. On voit quand même la courbe monter à la verticale d'un côté... Et de l'autre, effectivement, tous les embêtements sociaux, économiques, tout ce que ça peut...
Mais il y a quand même un élément qu'ont du mal à comprendre. Pardon, je me fais un peu le porte-parole des Français, parce que je le lis et je le vois dans les sondages, mais il y a quand même un élément qu'on a du mal à comprendre. Ça fait un an maintenant que ce virus est là, et on n'est pas encore sûr à 200% du niveau de contamination dans les écoles. Il y a eu des grandes études qui ont été faites dans les supermarchés, dans les librairies, dans tout un tas de lieux. Et dans les écoles, on est infichu un an après de savoir si la contamination elle est forte, faible ou complètement absente.
Bah là, vous venez de citer une étude qui a l'air effectivement intéressante.
Une,
il me semble qu'en Asie aussi, ils n'ont jamais fermé les écoles. Donc ça prouve aussi que certainement ce n'était pas aussi ravageur qu'on le disait. Moi, ce qui me frappe dans ce débat, je vous rejoins tout à fait, Michel, c'est que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que cette recherche du point d'équilibre, en fait. Puisque, de toute façon, là, on ne peut pas éradiquer ce virus. Donc, la stratégie des déconfinements massus à tour de bras, ça ne fonctionnerait pas. Donc, le gouvernement est contraint à chercher ce point d'équilibre, ce qui nous ramène à prendre en compte, à mon avis, quelque chose qu'on ne prend pas suffisamment en compte, qui est le temps. Parce que quand on regarde la situation, on le sait. Ça va durer encore plusieurs mois avant que la population ne soit vaccinée dans des proportions suffisantes. On sait que ça prend du temps, les livraisons de vaccins, la production, etc. Tout ça, on le sait. Et j'ai l'impression qu'on est embarqué constamment dans une forme de présentisme avec l'énumération, toutes ces doses, ces machins, ces seringues qui n'arrivent pas. Et du coup, on passe à côté de quelque chose qui me semble essentiel pour analyser ce qui nous arrive. C'est ça, ce paramètre du temps et ce calme qu'on devrait tenter de conserver dans la tempête.
Mais
c'est à mon avis ça.
Mais sauf que les décisions, elles impliquent la vie des gens.
Mais
quand
on est d'accord.
Que...
Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas presser le gouvernement de faire tout ce qu'il faut, d'activer. Mais je pense que quand même, ce qui nous serait quand même bénéfique tous collectivement, c'est de tenter effectivement de se projeter dans ce temps assez long de garder le
temps. Vous êtes d'accord pour dire que l'école est sans doute à part quand même, parce que c'est les enfants.
Mais
parce
ça en
que
fait
c'est
partie. Je veux dire, moi je suis
David
pour.
Le problème, c'est que effectivement, il y a une dimension temps. Mais là, on va bientôt fêter le premier anniversaire. Et le problème, c'est qu'à chaque vague, l'équation devient de plus en plus compliquée. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de paramètres et de plus en plus d'inconnus. Vous évoquiez le cas de l'école, qui est une de ces inconnues, le taux de contamination, le niveau. Bon, a priori, la situation n'a pas été catastrophique en France, donc on se dit que c'est pas massif, mais on ne sait pas. Autre inconnu, la progression du variant. On a des chiffres, mais on est incapable de dire dans 15 jours.
Samedi, visiblement, on en saura
plus. On en saura plus, mais ça reste encore de la spéculation. Enfin, les scénarios de reprise, les scénarios de faillite, la montée du chômage. On parlait tout à l'heure de la détresse psychologique des jeunes, des seniors, de tout le monde. C'est une espèce d'équation qui se complexifie à chaque fois. Au premier confinement, vous aviez grosso modo le sanitaire et puis un petit peu d'économique. Après, petit à petit, l'économique et social est rentré en compte. Et maintenant, on a tout ça, plus le psychologique, plus le social et plus, évidemment, une dimension extrêmement politique. Et vous parliez du temps, mais là, sur un temps court, pardonnez-moi, je vais prendre un petit peu le contre-pied de ce que vous disiez. Depuis 10 jours, là, on a plutôt le sentiment qu'on temporise, on lambine un petit peu, pardonnez-moi, au lieu de prendre des décisions qui, comme le disent tous les scientifiques, comme le prouvent toutes les études, s'il y a au moins une certitude dans cette affaire, c'est que plus on tape vite, plus on tape fort en matière de contention de l'épidémie, mieux ça marche.
Michel Cotta.
Oui, jamais aucune décision sanitaire n'a été aussi politique que celle-là. C'est-à-dire, on a les données, tout le monde a les données. Delfrécy, il a des données, d'ailleurs, il est chargé, au fond, de les diffuser autour de lui, tout en disant, moi, les politiques, c'est pas mon choix. Bon, Le temps, là, en l'occurrence, il ne l'a plus. Il ne l'a plus. Il l'a jusqu'à Emmanuel Macron, là, jusqu'à samedi.
Oui.
Dernier. Alors, je suis d'accord, il faut envisager de penser à ça dans le temps. Mais dans le temps, pour le coup, il y a quelque chose de qui saisit tout le monde et qui est effroyable pour nous comme pour tous les Français. Pas un projet. Pas un projet d'entreprise. Pas un projet d'investissement. Pas un projet de vacances. C'est quelque chose de complètement démoralisant pour toute une population.
18h45, on se retrouve dans quelques instants. C'est vrai que c'est une question qui se pose, David Rovodalen, pardon, je vais y arriver. Pourquoi attendre alors que visiblement toutes les données, on les a? On vous entendra dans un instant sur ce point, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h47, on est toujours avec le débat des grandes voix du jeudi. Michel Cotta, Claire Chartier, rédactrice en chef débat et IDL Express, et David Rovodalen, rédacteur en chef politique au Journal du Dimanche. Et on continue évidemment de parler de ces annonces. Moi, je voudrais revenir avec vous sur la conférence aussi, tout à l'heure, d'Olivier Véran, qui a donné des chiffres assez inquiétants, assez alarmistes, du côté notamment du variant. 500 cas de variant par jour, a-t-il dit, il y a 3 semaines. Nous sommes à 2000 aujourd'hui. Et c'est effectivement la question que vous posiez tout à l'heure, David. Pourquoi attendre avant de reconfiner, puisque ça fait 15 jours qu'on nous dit que c'est inéluctable?
Non, mais clairement, quand on dit tenter de maintenir le point d'équilibre ne veut pas dire qu'on ne prend pas des mesures fortes lorsque on pense qu'elles s'imposent. Et effectivement, là, je trouve, et on l'a dit à ce micro il y a 15 jours, de fait, quand on a su que les variants arrivaient et que de toute façon, ils étaient appelés à se développer, parce que c'est la logique du virus. Donc voilà, on peut s'étonner qu'effectivement les mesures n'aient pas été prises à ce moment-là.
Parce que depuis le début, on nous dit le président veut attendre les fameux 15 jours, donc les 15 jours, ça tombe ce samedi.
Oui,
sauf qu'entre
temps,
on a eu plein de chiffres qui vont dans le sens de la montée
en puissance
du variant. Mais qui
était attendu. En plus, le risque, c'est qu'après, on écope d'un confinement plus dur, plus long.
Oui. Parce qu'on perd une semaine.
Mais c'est
Michel
vrai qu'un confinement à demi-froid, un confinement où on voit bien que les chiffres montent, mais qui ne sont pas encore catastrophiques, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'un confinement où on vous dit, là, les hôpitaux sont saturés, on ne peut plus rien faire.
C'est vrai.
Alors, un confinement trop tôt, c'est très difficile à faire respecter. Parce qu'il faut ça aussi.
Mais c'est peut-être plus efficace.
Il ne faut pas seulement faire un confinement, il faut aussi le faire respecter. Bon, donc, si on le fait trop tôt... Et si on le fait trop tard, c'est vrai que les gens ont peur, ça les incite à rester chez eux, mais aussi on est responsable peut-être de plus de morts.
Vous savez, vous, David Rovodalen, pourquoi le président a voulu absolument attendre? Est-ce que c'est la une du JDD? Vous lui avez fait peur?
Il a décidé une chose, pour l'instant, c'est de ne rien décider, c'est certain. Effectivement, il a été agacé par la une du Journal du Dimanche, où nous annoncions un reconfinement imminent, mais nous maintenons évidemment nos...
On finit par avoir raison, c'est
nos
ça
positions.
Six jours, c'est presque imminent.
Absolument.
D'un dimanche sur l'autre.
Non, mais je pense que le président, il a été un petit peu énervé, d'une part, par notre une. Bon, mais ça, c'est de bonne guerre, et je pense que c'est plus anecdotique. Mais surtout par les coups de pression, comme il les a appelés, de l'écosystème médical. De plus en plus dans le gouvernement, quand vous discutez avec les ministres, ils vous disent, oui, il y en a assez de cette sanitocratie, cette médicocratie.
Sanitocratie.
En gros, voilà, les médecins veulent faire les politiques et nous ne faisons pas de médecine. Donc, il y a, je pense, une forme de résistance un petit peu, je suis le président, je décide.
Alors,
après, il y a un deuxième point, c'est que, pardonnez-moi, mais depuis une semaine, je trouve que cet enchaînement est très mauvais. Ça commence avec les 66 millions de procureurs, la fameuse phrase du président qui accuse les Français, en gros, de lui chercher des poux dans la tête, alors que les Français, c'est quand même un peu normal qu'ils s'inquiètent et qu'ils s'interrogent. Deux, on a effectivement...
Qui ont été sacrément résilients et pardon
oui,
de
mais bien
du,
sûr.
Du mot,
oui.
Mais
vous avez vu ce qui s'est passé aux Pays-Bas, il n'y a rien eu tel chez nous pour l'instant, enfin je touche du bois et je pense que les Français sont plutôt responsables et respectent les gestes barrières. Ensuite, on a une succession d'ordres, de contre-ordres, de cacophonie comme vous l'avez montré tout à l'heure, entre deux ministres qui annoncent tout et son contraire, et aujourd'hui, on nous apprend encore qu'il va falloir encore vraisemblablement attendre quelques jours. Pardonnez-moi, mais je le répète, s'il y a une chose à propos de laquelle on a une certitude dans cette affaire, c'est que pour stopper l'épidémie, il faut taper très vite et surtout très fort.
Alors,
et
là,
j'entends déjà.
Attendez, je voudrais qu'on progresse un peu, déjà. Michel Cotta. Réagissez sur cette information aussi qui est tombée là en fin de journée. Jean Castex, le chef du gouvernement, a annoncé qu'un débat et un vote seraient organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat la semaine prochaine si nouveau confinement était décidé par l'exécutif. À quoi ça sert, ça?
Non, je trouve que c'est une très bonne idée. Vous avez à la fois l'opposition, toutes les oppositions confondues.
On va débattre de quelque chose qui a déjà été décidé et appliqué?
Non, on va avoir, je trouve que toutes les fois qu'on s'adresse au Parlement dans un système démocratique, on a raison, d'abord. Ensuite, toutes les oppositions, qu'elles soient à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, convergent. vous entendez, comme moi, dire qu'il n'y a pas tellement de morts, qu'il n'y a pas d'adultes, que ça ne sert à rien. Bon, de l'opposition. Par conséquent, il faut, à mon avis, dégager du côté des pays, du côté des partis dits de gouvernement, c'est-à-dire la droite républicaine, le centre, une sorte de consensus contre ces oppositions en pont, parce que c'est des oppositions qui disent il n'y a qu'à faut que, ou Jean-Luc Mélenchon qu'on a entendu hier.
Vous voulez dire que le gouvernement est en train d'aller chercher une espèce de front républicain, d'union républicaine,
il est en train de chercher un consensus. Oui, il est en train de chercher un consensus minimal, et en tout cas, ce que lui donnera le Parlement, après ce sera très difficile de lui reprocher.
Claire Chartier.
Oui, je crois qu'Olivier Faure aussi se plaint finalement de ce que vous disiez, c'est-à-dire que en fait, ça va être un débat autour de quelque chose qui est déjà tranché d'avance. Donc, est-ce que c'est pas une parodie de vie parlementaire qui serait d'une certaine manière pire
Sauf qu'il
l'inverse.
Les a vus en ce moment.
Parce qu'on peut, on peut après reprocher justement cet exercice au motif qui serait totalement factice. Bon, en même temps, je vous rejoins assez. Je trouve que c'est effectivement le grief qu'on leur a fait beaucoup ces derniers temps, d'avoir complètement cisaillé la vie parlementaire. Donc là, on se retrouve avec une initiative qui nous amène plutôt de ce côté-là. Donc attendons de voir.
Alors justement, en parlant de Front républicain, je voudrais vous entendre sur ce sondage qui donne Marine Le Pen et Emmanuel Macron au coude à coude au second tour de la présidentielle. Si l'élection avait lieu aujourd'hui ou demain, 48% pour Marine Le Pen contre 52% pour Emmanuel Macron. On est quasiment dans la marge d'erreur. Est-ce qu'on est en train d'assister justement à la fin du Front républicain qu'on connaît dans la vie politique française depuis que Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de l'élection?
Alors, le Front républicain ne cesse de se déliter depuis 21 avril 2002, finalement, depuis le moment où il était en finale de la présidentielle contre Jacques Chirac. Là, le Front républicain tenait encore, et petit à petit, il s'est délité, notamment depuis que Marine Le Pen s'est appliquée à le démonter par une entreprise de respectabilisation, entre guillemets.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les Français, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, c'est peu ou prou la même chose?
Je ne crois pas du tout. En revanche, sur ce sondage, qui est, à mon avis, un point très particulier, on est quand même un petit peu dans les sondages de deuxième tour à 17 mois d'une élection. C'est quand même, à mon avis, à prendre avec des pincettes.
Alors, j'ai regardé les archives. J'ai vu qu'il y avait un même sondage qui avait été fait par nos amis de BFM TV, me semble-t-il, à la même époque à peu près, qui était dans les mêmes équilibres.
5 ans plus tôt.
Qui était dans les mêmes équilibres.
Avant la présidentielle de 2017. Oui, donc. Et on était à 52-48.
À peu près dans les mêmes équilibres.
Bon, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Là, on est à 17 mois. On est en pleine crise du Covid. Les sondages d'Emmanuel Macron en termes de popularité sont, de confiance sont plutôt hauts, étonnamment hauts. Hein. Je parle notamment du baromètre du JDD, où il est 14 points devant Nicolas Sarkozy à la même époque, et plus de 20 points devant François Hollande. Donc, je reste un petit peu circonspect par rapport à ce sondage. En revanche, sur le Front républicain, c'est très clair, il n'existe plus ou quasiment pas.
Michel Cotta.
J'ai commis, il y a 6 mois, avec Robert Namias, un livre qui s'appelait Le Rouge et le Brun, et qui montrait comment, effectivement, c'est comme ça que peut-être vont se dérouler les élections. Parce que pour le moment, effectivement, on ne voit pas de candidat qui puisse s'intercaler. Alors, on voit, on regarde Michel Barnier en disant « Ah tiens, ça ferait peut-être un bon candidat républicain. » Et puis, on voit quelqu'un d'autre.
Xavier Bertrand, candidat crédible?
Je ne sais pas.
Anne Hidalgo?
Anne Hidalgo, par exemple, oui. Alors on dit, voilà, Anne Hidalgo, ça a des chances. 6% dans les sondages.
Bah, attendez, souvenez-vous, François Hollande, un an et demi avant l'élection.
3%.
Non, mais je veux 3%. Dire, on est d'accord. Mais c'est vrai que si cette élection présidentielle se passe en face à face avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron, moi je ne sais pas du tout ce que font les Insoumis. Je ne sais pas s'ils s'abstiennent ou s'ils votent carrément pour Marine Le Pen. Je ne sais pas ce que font un certain nombre de gens. Je ne sais pas ce que fait la droite qui est proche de l'extrême. Donc, c'est
enfin,
effectivement.
En tout cas, vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui disent oui, on n'y reprendra plus.
Voilà,
on n'y reprendra plus.
Alors,
à
peut-être
voter
qu'il
Emmanuel
peut s'abstenir,
Macron.
Mais quand on voit la campagne que fait Mélenchon, tout les pousse, au contraire, à faire tout pour barrer.
Claire Chartier,
vous êtes d'accord. Il y a deux éléments à souligner. À la fois, Marine Le Pen bénéficie finalement d'une image d'Emmanuel Macron. Qui, on l'a vu récemment dans le sondage de Via Voice pour Libération, reste celle d'un président très peu empathique, très, très peu proche des gens. Et là, dans une période comme celle-là, où on appelle à la protection, et vraiment, il y a un fort sentiment, il y a une forte demande de ce côté-là social, le fait que lui reste comme ça sur des chiffres, quand même, je crois que c'est trois quarts des Français qui considèrent qu'il est très loin des préoccupations françaises, c'est quand même très révélateur. Donc, elle bénéficie de ça, de la même façon qu'elle a, elle, travaillé. Elle s'est mise en retrait depuis son terrible débat de 2017. Elle s'est un peu mise en retrait. Elle a travaillé son image de femme, justement, comme les autres, avec une vie de famille comme les autres. Beaucoup moins tonitruante qu'avant, beaucoup moins, et soignant aussi une communication, mais au cordeau. Oui. Donc tout cela, en fait, et elle bénéficie d'un troisième point, c'est-à-dire que les idées du Rassemblement National ont tellement infusé dans la société qu'en fait, elle n'a plus besoin de parler, c'est-à-dire que tous ses relais sont partout. Ils ont des échos absolument partout.
Sauf que quand elle parle, quand j'entends parler du dessin, du séquençage, je l'entendais longuement parler du séquençage, moi, j'y connais pas grand-chose, mais elle, alors, vraiment, elle en connaît encore moins.
Merci. Merci Michel, merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du jeudi.
Europe 1, Julien Bugier.
18h57, restez avec nous dans quelques secondes, le journal. Et puis notre grand débat ce soir consacré au cold case. Comment les experts de la police et gendarmerie enquêtent sur les crimes non résolus? Vous verrez, c'est passionnant. À tout de suite.
Europe 1, écoutez le monde changer.